On va aller ensemble dans la parole de Dieu, on va écouter ensemble les 9 premiers commandements. Je sais que ça fait plusieurs fois qu'on les lit, on prend le temps de toujours les lire au complet. Je vous demande d'être bien attentif à la parole de Dieu et pour cela, on va aller ensemble dans un mot de prière pour préparer nos cœurs à écouter sa parole et à recevoir sa parole. Père éternel, alors que j'étudie ta loi, que j'étudie tes commandements, Seigneur, encore une fois, je mesure combien tu es saint, Seigneur. Combien en toi, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de fourberie. Tu n'es pas un être double, avec des motifs cachés et égoïstes, mais tu es lumière, tu es vérité, tu es sainteté, tu es amour, Seigneur. Et ta parole est placée devant nous comme un miroir, Seigneur. Ta parole est placée devant nous comme une aspiration, comme un modèle à chercher. Ta loi est placée devant nous comme un guide, Seigneur. Je prie, Père, d'être avec moi ce matin, avec mon cœur, avec mon esprit. Viens me remplir de ton Esprit Saint, afin que ce que j'apporte, Seigneur, soit conforme à ta parole et soit appliqué pour nous. Aujourd'hui, à ce moment-ci, Seigneur, dans nos histoires personnelles, dans cette culture particulière où tu nous as placés, que ta parole résonne en nous, Seigneur, et produise en nous un fruit de repentance, un fruit de sainteté par la puissance de ton Esprit Saint, une conviction de péché, là où il doit y avoir une conviction et de la repentance, Seigneur. Une manifestation de ta puissance à travers ma faiblesse, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre Exode, chapitre 20, versets 1 à 16, dans l'édition Louis II. Exode 20, chapitre 1 à 16. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain.
Merci Virginie. Ce matin, je commence encore avec une mise en garde. Je veux dire, il est fatigant avec ces mises en garde. Ben, vous savez, pendant que j'étais en train d'étudier ce commandement-là, j'ai eu une petite crainte, un petit doute. Je me suis dit, ce serait facile de se dire, celui-là en tout cas, il y a peu de chances que j'en sois coupable. Je ne sais pas combien d'entre nous vraiment nous retrouverions en cours et oserions porter un faux témoignage qui amènerait quelqu'un en prison. Alors facilement, on pourrait se dire, mais ce n'est pas pour moi celui-là. Et pourtant, par implication et par application, c'est potentiellement le commandement contre lequel nous péchons le plus souvent. Possiblement. Possiblement. Ce matin, on parle de faux témoignages, de mensonges, mais particulièrement de mensonges contre mon prochain. Un mensonge qui sert à attaquer la réputation de quelqu'un d'autre, à défaire la réputation de quelqu'un d'autre, voire même peut-être à l'incriminer sur une base qui serait fausse. Et donc, on parle de mensonges. Et le mensonge fait partie de notre culture, c'est omniprésent. En fait, si on parlait seulement de mensonges, nous mentons tous, chacun d'entre nous, et peut-être à tous les jours, en omettant de dire certaines choses, en embellissant un peu la vérité. Ça fait partie de la culture. George Orwell, auteur de La ferme des animaux, 1984. Je ne sais pas si vous avez lu ces romans-là, qui sont des critiques, des satires, qui regardent la société, les enjeux sociopolitiques aussi. C'est lui aussi qui a pensé, qui a imaginé l'expression « Big Brother ». Et donc ça vient de lui. Et voici ce que George Orwell avait à dire. À une époque de mensonges universels, dire la vérité est un geste révolutionnaire. Tellement le mensonge fait partie de notre société. On pourrait même se poser la question si tout à coup, tout le monde dans la société ne faisait que dire la vérité. Est-ce que le système tiendrait encore? Est-ce que le système tiendrait encore? On va mesurer à quel âge vous avez ce matin. Qui a vu un vieux film? C'est presque dans le temps du noir et blanc, 97. 1997. Liar, Liar avec Jim Carrey. Qui a vu ça? Là les jeunes, il faut que vous fassiez votre éducation. Quelques paroles grossières, d'accord, mais c'est un classique. C'est un classique, d'accord? Menteur, menteur avec Jim Carrey. Le personnage est un avocat, d'accord? Un avocat, politicien, avocat, c'est bon? Vous me suivez? Ment tout le temps, constamment. Je ne dis pas qu'ils mentent tous, mais bon. Et puis, son fils, qui est blessé de voir ça chez son père, fait un vœu. Il fait le vœu que son père ne dise que la vérité. Et puis, par la providence divine, son vœu est exaucé. Son père commence à dire uniquement la vérité. Il se met dans le trouble, c'est terrible, terrible, terrible. Il ne peut pas retenir ce qui se passe dans sa tête, il faut qu'il le dise. On peut imaginer ce qui se passerait avec notre société si tout le monde était en train de dire la vérité. Et simplement l'imaginer. Imaginez si cette semaine, chaque fois qu'on vous pose une question, vous disiez la vérité. Tu sais, il y a un moment quand tu es marié où tu ne veux pas que ton épouse te demande « Puis chérie, est-ce que ça m'avantage? » Tu apprends à faire des compliments. Elle dit, chérie, tu seras toujours la plus belle pour moi. Tu veux pas qu'elle pose une deuxième question? Mais en même temps, c'est un petit peu triste, hein? C'est un peu triste de réaliser que le mensonge est omniprésent dans la société. Alors, ce matin, on va voir ensemble que Dieu nous a appelés à aimer notre prochain, à le construire. Et s'il nous a donné cette capacité-là de parler des autres, ce n'est pas pour lui planter des couteaux dans le dos en détruisant sa réputation, en portant de faux témoignages contre lui. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dans le contexte du passage, et je fais vraiment un choix ce matin d'essayer de coller un petit peu plus dans le texte, d'accord? Dans le contexte du passage, c'est vraiment un contexte de témoignage dans une situation de tribunal. On s'en va en cours, on parle d'un témoignage judiciaire. Alors, c'est important de garder ça à l'esprit. C'était une époque où toutes les le médico-légal, les preuves qu'on pouvait sortir avec le... Je m'excuse, j'ai juste des termes en anglais ce matin. Toutes les preuves forensiques où on va aller chercher des preuves scientifiques pour démontrer la culpabilité. C'était pas poussé, c'était pas avancé comme aujourd'hui. Alors, le témoignage d'une personne était fondamental. Et donc, sur la base de la déclaration d'un témoin, la vie d'une personne pouvait être enlevée parce que quelqu'un venait témoigner et disait « Oui, il est coupable de ce meurtre-là. Je suis témoin. » Donc, c'était super important, d'accord? Mais cela encore aujourd'hui, remarquez. Cela est encore aujourd'hui. On a des commissions qui coûtent des millions de dollars qui font venir des témoins. Et on entend ces témoins-là. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a pourvu ce commandement, mais une loi aussi plus étoffée que ça encore. Et on voit vraiment la sagesse de Dieu, on voit la providence d'un Dieu qui, fondamentalement, Dieu aime la vérité. Et Dieu connaît le cœur humain. Et donc, en donnant ce commandement-là, et avec d'autres versets qu'on va lire très rapidement, il va étoffer cette loi-là pour protéger des victimes potentielles de faux témoins, d'une justice corrompue, parce que le cœur de l'homme est corrompu. Et donc, Dieu va protéger. Et donc, en Israël, lorsque quelqu'un était accusé, cette personne-là comparaissait devant un jury d'anciens. On prenait des aînés du peuple, et donc la personne devait comparaître devant un jury. Ça ne se passait pas comme ça se passait parfois au Far West avec des lynchages, d'accord? Des mises à mort rapides parce qu'une foule s'emporte. On devait comparaître devant un jury. Et Dieu va aller plus loin que ça. Dans Deutéronome 19,15, on lit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Et donc, ces témoins-là devaient être examinés. Il fallait au moins en avoir deux. Un petit peu plus loin, au verset 18, il continue en disant « Les juges feront avec soin des recherches. » Il y a des témoins qui se présentent, ceux qui sont juges, les anciens vont faire avec soin des recherches. « Le témoin est-il un faux témoin? » Écoutez bien ceci. C'était assez pour t'amener à réfléchir avant de porter une fausse accusation. « A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Alors tu vas et tu dis « Oui, je suis témoin. Il a tué telle personne. » On examine, on vérifie, il y a quelqu'un d'autre qui est témoin du fait que tu ne pouvais pas l'avoir vu parce que tu n'étais pas là. Parce qu'il y a des témoins qui disent que tu étais ailleurs ce soir-là. Tu n'as pas pu être témoin. Tu vas être mis à mort. Parce que tu as voulu faire condamner un innocent à mort. Et tu vas être reconnu coupable du crime duquel tu accusais. Tout le principe de justice repose sur la vérité. Regardez la commission Charbonneau. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La juge est responsable d'engager des enquêteurs, des avocats, de faire comparaître des témoins, dans le but de faire quoi? De faire sortir la vérité. C'est ça qu'elle fait. La justice repose sur la vérité. Philip Ryken, que j'ai cité à quelques reprises dans cette série, l'a résumé comme ça. Là où il n'y a pas de vérité, il ne peut y avoir de justice. Et donc, ce que Dieu est en train de dire à Israël, Dieu est en train de dire à Israël, « Je suis celui qui est la vérité. » Et au milieu de vous, il va y avoir la justice. Cette justice-là repose sur la vérité. Vous n'allez pas être des gens qui mentent, qui se promènent à détruire des gens, à faire condamner quelqu'un parce que vous avez un ennemi. Vous allez organiser quelque chose pour le faire trouver coupable et le faire mettre à mort. « Je suis le Dieu de vérité. » Et au milieu de vous, c'est la justice qui va régner. Cette justice-là repose sur la vérité. Dieu pourvoit à une loi remplie de sagesse pour s'assurer que ce qui est dit sur quelqu'un d'autre soit toujours vrai. Et c'est ça que Dieu est en train de faire ici. Tout à l'heure, j'ai dit par implication, par application, ce commandement-là a beaucoup d'implications dans nos vies. Depuis toujours, lorsque les, lorsque les docteurs de la parole, les théologiens étudient les 10 commandements, on comprend les 10 commandements comme couvrant chacun tout un registre de fautes, de crimes qu'on pourrait commettre. Par exemple, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Depuis toujours, les gens qui lisent ce commandement-là et qui cherchent comment l'appliquer comprennent que ça implique toutes les violences qu'on peut faire physiquement contre quelqu'un par faute, d'accord? S'en prendre à un innocent pour le battre. Ça va être couvert aussi par ça, même si je ne me rends pas à la mort. Et donc, bien souvent, lorsque des pasteurs vont enseigner sur ce commandement-là, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain », assez rapidement, on va aller dans toutes ces implications pratiques du mensonge, parce que les Écritures parlent énormément de cette idée de dire que jamais ce qui sort de ma bouche devrait être un parjure, devrait être quelque chose de faux, quelque chose qui n'est pas selon la vérité. Il y a plein de passages qui en parlent. Et ce matin, on pourrait développer sur toute la notion du mensonge, qui n'est pas nécessairement contre quelqu'un d'autre. Il y a plein de mensonges qu'on dit qui ne vont pas nécessairement causer du tort à quelqu'un. On le fait simplement pour se protéger nous, on le fait seulement pour ne pas avoir de l'air fou, on le fait seulement toutes sortes de motifs, d'accord? Mais ce n'est pas toujours pour causer du mal à quelqu'un d'autre. Et on aurait pu développer ça ce matin. Ce commandement-là couvre tout ça, le mensonge. Mais il m'a semblé bon d'essayer de s'en tenir aux mensonges qu'on peut faire pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Alors oui, je vais aller plus loin que mentir en cour, mentir devant un juge pour incriminer quelqu'un. On va aller plus loin que ça dans l'application, mais on va se concentrer sur cette idée des mensonges qu'on peut prononcer qui font du mal à mon prochain, qui m'amènent à attaquer mon prochain. Parce que la loi que Dieu donne, on le voit très bien, nous parle d'aimer Dieu, on l'a vu dans les premiers commandements, et ensuite de ça, d'aimer mon prochain. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, versets 16 à 19, on lit quelque chose d'assez frappant. Ça dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Dieu haït profondément ce comportement où je vais chercher à détruire quelqu'un d'autre. L'incriminer, mais peut-être simplement détruire sa réputation. Et l'Église de Jésus-Christ n'est pas à l'abri de ça. Ce n'est pas parce qu'on est des bons petits chrétiens, puis qu'on a des principes, puis que non, nous on veut s'aimer hein, dans l'Église de Jésus, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de ça. Beaucoup plus tard, l'apôtre Paul va écrire à l'Église de Corinthe, « Dieu merci, nous ne sommes pas comme l'Église de Corinthe. » 2 Corinthiens 12, 20, voici ce qu'il dit. « Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne le voudriez pas. J'ai peur d'être obligé de me fâcher contre vous, les amis, en vous trouvant pas aussi spirituel que je l'aurais aimé. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. » Dans l'Église de Christ. Comme chrétiens, on est tout aussi menacés, tout aussi en danger de se servir de la langue que Dieu nous a donnée pour porter de faux témoignages contre les gens autour de nous et s'en prendre à eux. Le faux témoignage pour attaquer le nom de mon prochain. Il n'y a pas juste le contexte judiciaire, où je peux porter un faux témoignage, mais je peux le faire en attaquant la réputation de quelqu'un. Dans Proverbes 22, 1, on lit ceci, « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » La réputation est préférable à de grandes richesses. Ça prend une vie construire notre réputation et ça prend un instant la détruire. Est-ce que c'est vrai? Si ce proverbe-là était vrai à l'époque, aujourd'hui, alors que certains d'entre vous avaient Twitter allumé actuellement pendant que je suis en train de parler, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai. Une réputation se détruit très rapidement. Il y a des hommes de Dieu que je respecte énormément et que je suis actuellement, je les suis sur Internet, des sagas internationales, littéralement. Parce qu'il y a des accusations qui sont portées contre eux et dans certains cas, de fausses accusations. Je suis assez près de ce cercle-là pour pouvoir valider qu'il s'agit de fausses accusations. Et je vois ces hommes-là se retirer de ministère en ministère en ministère parce que leur simple présence sur l'estrade avec d'autres prédicateurs porte ombrage à toute la conférence au complet. Lorsque j'attaque la réputation de quelqu'un, je suis en train d'agir comme un meurtrier. Je suis en train d'essayer de détruire quelque chose, consciemment ou non. Parce que je pense que la vaste majorité du temps, on ne le fait pas consciemment. Mais je suis en train d'attaquer quelque chose qui est tellement dur à construire. Quelques exemples pratiques, d'accord? Quelles sont toutes les formes de faux témoignages qu'on peut rendre contre quelqu'un d'autre? Et vous allez voir qu'à un certain moment donné, vous allez commencer à dire coupable, coupable, coupable. Évidemment, évidemment, mentir en cours. Certains d'entre nous auront à aller témoigner en cours un jour. Certains d'entre nous seront appelés à comparaître, à aller comme jury, à siéger comme jury. Et on va voir tout ce jeu-là qui est là tellement important pour la justice. Évidemment, si je m'en vais mentir en cours, si je m'en vais mentir devant des officiers, si je fais dernièrement, j'ai dû aller faire une déposition à la police. Et donc, j'ai fait une déclaration, des enquêteurs vont m'appeler, je vais devoir répondre devant des enquêteurs. Après ça, je vais devoir me présenter en cours sur cette déposition-là que j'ai faite. Alors évidemment, je pourrais porter un faux témoignage. Et alors que j'écrivais cette déposition-là, je disais au policier, « J'espère que ce que je suis en train de dire là va être démenti en démontrant que la personne n'est pas coupable, même si ce que je dis là est factuel, c'est peut-être pas elle qui l'a fait. » Mentir en cours. Mais la médisance, parler en mal de quelqu'un en mentant, en l'attaquant, en disant des choses fausses sur cette personne. Plus que ça encore. Et là, vous allez voir, c'est difficile de ne pas être trouvé coupable de celui-là. Quand je participe à du commérage, sans avoir vérifié ce que je suis en train de rapporter, quelqu'un m'a dit ça. Ça sonne dans mon oreille. It rings true. Ça sonne vrai dans mon oreille. Et je le prends pour acquis, mais moi-même, je n'ai jamais vérifié. Rappelez-vous le passage qu'on a lu tout à l'heure, Deutéronome 19, 18, 19. Les juges feront avec soin des recherches. À partir du moment où quelqu'un vient me raconter quelque chose sur quelqu'un d'autre et que je le rapporte sans l'avoir vérifié moi-même, je me positionne en juge. À partir du moment où quelqu'un me dit quelque chose sur quelqu'un d'autre et que je le répète à quelqu'un, je me fais juge. Deutéronome 19, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Chaque fois que je fais ça, je mériterais que quelqu'un fasse courir quelque chose sur moi, sans le vérifier. Oui, mais ça sonne tellement vrai. Ça fit avec la personne, je la connais. C'est certain que c'est vrai. C'est certain que c'est vrai. Mentir ou déformer la vérité concernant quelqu'un pour me mettre en valeur ou me blanchir. Juste ajuster les choses un petit peu parce que je vais avoir de l'air meilleur. Je vais avoir fait mieux que l'autre. Je vais être excusé de cette faute-là. J'avais un livrable au travail, je devrais livrer à telle date. Et puis là, je suis confronté au fait que je n'ai pas respecté mes livrables. Il y a un client qui est frustré, mon patron me tombe dessus. Je vais juste ajuster un petit peu les choses pour sais, tasser au moins la partager, la responsabilité. Si des gens autour de la table peuvent être aussi responsables que moi, c'est un faux témoignage que je suis en train de livrer ici. Si je sais que je suis en train d'ajuster la vérité pour ne pas assumer les choses telles qu'elles sont, je suis en train de livrer un faux témoignage. Rapporter une partie de la vérité, écoutez bien ceci, en racontant la faute d'une personne sans contexte, sans mise en contexte ou pire encore, sans dire que cette personne-là a regretté son geste. Hey, tu ne devineras pas ce que j'ai vu l'autre fois, j'ai assisté à un délit de fuite. Il y a quelqu'un qui a frappé une autre personne avec une voiture, mais ce que j'omets de dire, c'est que la personne s'est sauvée, puis 100 pieds plus loin, il a breaké son char, il est reculé, il a fait venir le 911. C'est drôle, hein? L'histoire vient de changer. Un délit de fuite de 100 pieds. Mais chaque fois que je raconte une histoire sur quelqu'un où je suis en train de parler de son péché, est-ce que je connais le contexte? Est-ce que cette personne-là s'est repentie de ça? Parce que vous savez, si elle s'est repentie, la gloire de Dieu s'est manifestée. Ce n'est plus une histoire noire, c'est une histoire glorieuse. C'est une histoire belle où la grâce est intervenue, le cœur a été transformé, les conséquences sont peut-être là, mais la gloire de Dieu s'est manifestée. Waouh, ça devrait être une belle histoire, je ne suis pas en train de le planter. Mais non, on omet ça, ça va être moins drama, ça va être moins croquant, ça va être moins un bonbon. Un bonbon. Une chose qui me tue, je vous le dis comme ça, vous le direz à vos amis si jamais ils viennent visiter l'église, puis ils viennent d'une autre assemblée. Ça me tue quand quelqu'un arrive dans la porte, me salue, puis il dit « Waouh, quelle église extraordinaire, je viens de telle église. Les pasteurs ne prêchent plus la parole là-bas. » Ici, cette église-ci, vous autres, vous êtes dans la vérité. Il n'y en a plus beaucoup des églises comme ça. Sais-tu d'où je viens? Je ne veux pas le savoir. Tu comprends-tu que si j'aime ça, là, ça peut juste être mauvais ce qui se passe dans mon cœur? Hey, je me suis fait dire qu'on était meilleur qu'une autre église. Non, les chrétiens ne font pas ça, hein? On ne compare pas les églises, on ne fait pas ces choses-là, nous autres. Ça me tue, ça me bouffe en dedans. Puis quand c'est bon, quand j'aime ça, je suis déjà mort. Parce que j'ai participé à votre péché, vous comprenez? Cancan de comparaison entre des églises sans expliquer l'histoire, sans donner le contexte, sans comprendre. Je suis le premier coupable, les amis, vous comprenez? Quand je vais m'asseoir avec un pasteur d'une église autour, puis je dis « je veux manger avec toi », mais des fois c'est parce que dans mon cœur, il a commencé à avoir des jugements. Et une résolution que j'ai prise dans mon cœur, c'est quand je vais avoir des doutes sur un pasteur, sur une autre église, quand je vais commencer à avoir des doutes, je vais aller manger avec lui. Quand j'aurai eu toutes les réponses, je pourrai déterminer les endroits où je suis d'accord et les endroits où je ne suis pas d'accord. Là où je pense que ce n'est pas exactement comme ça que les Écritures nous disent de faire les choses. Mais avant ça, je vais garder ces jugements-là pour moi. Je vais prier pour les serviteurs de l'Éternel. Alors, chaque fois qu'on raconte une histoire puis qu'on ne parle pas de la repentance, on ne donne pas le contexte, on ne dit pas que Dieu a relevé, on est en train de faire du commérage. On rend un faux témoignage quand on parle d'une personne en mal. Et je pense que ça va jusque-là, les amis. C'est super important ce que je veux dire là, parce que finalement, tu n'as plus grand-chose à dire en mal contre le monde. On rend un faux témoignage quand on parle d'une personne en mal et que ça s'arrête là. Je n'ai rien d'autre à dire. Parce que tout ce qui va être retenu de cette personne-là, c'est le mal qu'elle a fait. Je vous ai dit la semaine dernière, pendant mon message, j'ai dit, « Dieu m'a convaincu de péché, j'ai volé. » Hey, j'ai dit ça, moi, c'est enregistré. Hey, tu connais-tu Yannick Etier? Tu l'as entendu? Oui, ça a l'air qu'il vole. Mais à part de ça, je ne le connais pas beaucoup. Sais-tu, j'aurais préféré que tu dises, « Ben non, je ne le connais pas vraiment. Je ne connais pas tellement. Sûrement qu'il y a quelque chose de bon en lui, là, si j'allais manger avec lui. » Comprenez? Si tout ce que tu as à dire sur quelqu'un, c'est quelque chose de mal, ferme-la. Tais-toi. C'est pas vrai que c'est ça son histoire. Tu n'as rien à dire. Parce que ça ne résume pas la personne. Ça ne résume pas la personne, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La personne est plus que ça. Est beaucoup plus que ça. Donc, ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire là. À moins que je sois en train de protéger, à moins que je sois en train d'intervenir, je veux éviter à quelqu'un d'être emporté dans des fausses doctrines, de tomber dans des pièges. Ça se peut que je le fasse dans ce cas-là, mais vous comprenez? Ce n'est pas du commérage que je suis en train de faire. Je suis en train d'intervenir avec sagesse pour protéger. Quand est-ce qu'on risque de porter de faux témoignages? Quelles circonstances, quelles situations pour les détecter dans nos cœurs peuvent nous amener à porter de faux témoignages comme ça? Quand tu es fâché contre une personne et que tu parles d'elle à quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Tais-toi. Va commencer par mettre ça dans la prière. Je parle pas de situation où tu vas demander conseil, tu sais, puis la colère est encore là, puis regarde, j'ai besoin que tu m'aides à gérer ça. J'ai besoin de régler ça avec Dieu, il faut que j'aille régler ça avec telle personne. C'est pas de ça que je parle, vous comprenez? Mais je parle de ces situations qu'on n'a pas réglées, puis dont on est en train de parler. Quand tu parles de quelqu'un d'autre contre qui tu es fâché, il y a des chances énormément élevées que tu portes un faux témoignage à un certain moment donné, que tu tordes les choses ou que tu dépeignes la personne plus noire qu'elle ne l'est. Quand tu chiales contre quelqu'un, il y a de très fortes chances que tu sois un faux témoin. Quand tu es jaloux d'une personne, alors pense aux gens autour de toi, dans ta famille, les voisins, au travail, n'importe qui, de qui tu es régulièrement jaloux. Il y a de très fortes chances qu'à plusieurs reprises, tu aies été un faux témoin contre cette personne-là parce que tu as déformé des choses en parlant d'elle. Il y a de très fortes chances. Alors, en réalité, on devrait apprendre à parler moins souvent et lorsqu'on parle, communiquer une grâce avec notre bouche. Depuis quelques mois, j'observe dans ma vie, dans mon cœur, que je prends de plus en plus plaisir à me taire. Esther continue à prier parce qu'on n'est pas rendu encore, là, mais je prends de plus en plus plaisir à me taire. Des choses viennent à mon esprit, il y a tellement d'informations qui viennent à moi, si vous saviez, sur d'autres églises, sur l'église, tout ça. Puis je prends plaisir à me taire, à rester en silence. Puis ensuite, on doit parler. Mais pour communiquer une grâce, pour faire du bien, pour élever les gens autour de nous. Alors voici des questions qu'on devrait se poser avant d'ouvrir la bouche pour parler des gens. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est vrai? Sur la personne. Si oui, est-ce que c'est vraiment utile que ce soit dit concernant cette personne-là, dans cette conversation? Des fois, oui. Des fois, il faut dire des choses mauvaises parce qu'il faut protéger, parce qu'il faut enseigner, parce qu'il faut intervenir. Est-ce que j'aurais le même propos, est-ce que je tiendrais le même propos si la personne était là, si la personne était témoin? Une des manières que j'aime bien garder mon cœur et ma langue, j'aime m'efforcer de dire régulièrement, tu peux rapporter mes paroles là-dessus, il n'y a aucun problème. Cette semaine, je l'ai fait encore. Situation difficile, gros litige, immense conflit qui est en train de se bâtir, d'accord? Quelqu'un vient me demande conseil. Tu ne veux pas toujours être cité sur tes conseils parce que ça peut être hors contexte. Mais là, je suis informé, je reçois de l'information que je ne suis pas censé recevoir à ce moment-ci. Mais bon, je le sais parce que je suis conseillé là-dedans. J'ai dit à cette personne-là, tu peux rapporter mes paroles quand tu veux. Dis que c'est moi qui l'ai dit. J'assumerai ça après. J'aime faire ça. Es-tu prêt à faire ça quand tu parles de quelqu'un d'autre? Tu peux rapporter mes paroles. Tu peux dire que ça vient de moi. Si tu peux faire ça, déjà, on est en affaires, on est en business, là. Tu commences à assumer ce que tu es en train de dire. Et si nos paroles ne passent pas ces simples tests-là, je ne pense pas qu'on devrait parler. Je pense qu'on devrait simplement se taire. Un des premiers versets que j'ai mémorisé dans ma vie chrétienne se trouve dans Éphésiens 4. Parce que je suis une tableau de grande gueule. Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est à ça qu'on doit servir les chrétiens. C'est à ça qu'on doit servir les chrétiens, à communiquer des grâces. Des fois, ces grâces-là font mal. Lorsque j'annonce l'Évangile, je dois dire à la personne à un certain moment donné, « T'es pécheur. Tu vas comparaître devant Dieu un jour, puis ce qui va ressortir de toi, malgré toutes tes bonnes actions, malgré tout ce que tu as fait de bien, c'est que t'es pécheur. Je dois le dire, je dois arriver là. Je dois l'aider à voir à quelque part le mal qu'il y a dans sa vie. Mais en faisant cela, je suis en train de communiquer une grâce. Parce que je l'aide à voir la réalité comme elle est. Et c'est à ça que notre bouche doit servir. Encore une fois, dans les Proverbes, Proverbes 17:9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Je ne suis pas toujours obligé de dire la vérité, parce que ça se peut qu'en disant la vérité, si je la dis juste partiellement, je suis en train de dire un mensonge. Et si je n'ai pas la possibilité de présenter vraiment les choses comme elles sont, vaut mieux couvrir les fautes. Vaut mieux couvrir les fautes que de salir et de détruire quelqu'un d'autre. Alors, une des manières qu'on peut prendre ce commandement-là et l'appliquer dans nos vies, c'est de le prendre et l'appliquer à la positive. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les commandements sont là comme une espèce de barrière, de limite, de zone extrême à ne pas franchir. Ah, évidemment, si tu es convoqué en cours, puis que tu as à comparaître puis rendre un témoignage, évidemment, va pas incriminer quelqu'un avec un faux témoignage. C'est la limite, tu sais. Va pas jusque-là. Mais pourquoi est-ce qu'on le formulerait pas à la positive au lieu de ce commandement-là? Tu seras un vrai témoin. Tu défendras la victime du mensonge et du commérage. Tu construiras, tu édifieras, tu bâtiras avec ta langue. C'est ça que tu es appelé à faire. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Chacun d'entre nous. Premièrement, avec la famille de Dieu. Parce que vous savez, à force de vivre ensemble, on découvre que l'Église est loin d'être parfaite. Très loin d'être parfaite. On découvre qu'il y a plein d'hypocrites dans cette affaire-là. Le menteur. J'ai déjà cité Mark Dever, qui, discutant avec une dame qui n'était pas chrétienne, puis elle lui a dit, « Ah, moi, les églises, je ne suis pas capable. C'est rempli de menteurs, d'hypocrites. C'est plein de serpents là-dedans. » Puis Mark lui a dit, « C'est vrai. Puis il y a toujours de la place pour une de plus. » Marc aussi prie pour pas trop parler, je peux vous le dire. Parce que Dieu lui a donné une belle facilité d'argument, n'est-ce pas? Évidemment, on parle de témoins, on parle de faux témoignages. Je ne peux pas faire autrement que de me tourner vers celui qui est la vérité. Vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est vraiment ironique que celui qui est la vérité, qui incarne parfaitement la vérité, Jésus-Christ a été accusé par des faux témoins à de nombreuses reprises qui ont essayé de détruire la vérité, de le tuer, de l'éliminer. Jésus-Christ lui-même, qui est la vérité, a été victime de faux témoins. Et alors que les faux témoins travaillaient à le condamner, à l'incriminer, il comparait devant l'autorité de l'époque, l'autorité civile, celui qui allait être juge, Pilate, autorité romaine, gouverneur romain. Et lorsqu'il comparait devant Pilate, Pilate lui dit, le questionne et lui dit, « Tu es donc roi? » Puis Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Écoutez bien ce qu'il dit. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et encore une fois, plus ça change, plus c'est pareil. Pilate, profondément cynique, « Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que ça existe, cette affaire-là? » Mais Jésus a dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » C'est pour ça que Jésus est venu. Parce qu'il est la vérité et il est venu placer devant les hommes la vérité concernant Dieu et la vérité concernant les hommes. Il est venu dire aux hommes, vous êtes pécheurs et Dieu est saint. Dieu est bon, c'est un bon Père qui vous aime et vous lui crachez au visage constamment. Vous pensez être droit. Vous vous regardez dans le miroir puis vous dites, je suis bien meilleur que les autres. Mais vous ne réalisez pas que vous êtes tordu, menteur, corrompu jusqu'à la moelle. Vous avez pour père le diable qui est le père du mensonge. Vous n'êtes pas des gens vrais. Vous êtes des gens faux. Et Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité en disant, et pourtant, ce Dieu merveilleux et saint qui est la vérité vous a aimé. Je suis ici pour témoigner non seulement de sa sainteté et de votre péché, mais je suis ici pour témoigner de son amour et de sa grâce. Venir vous dire qu'il vous aime, qu'il vous invite à venir vers lui maintenant. Jésus-Christ, le témoin de la vérité. Et ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit de Jésus, Apocalypse 1, les versets 4 et 5, « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Jésus, le témoin fidèle, témoin des temps, témoin des époques, témoin de Dieu, témoin des hommes, témoin des âges, celui qui rend témoignage de la justice et de la droiture de Dieu, de l'amour et de la sainteté de Dieu et du péché des hommes. Voyez-vous ce que les Saintes Écritures nous disent? C'est qu'un jour, chacun d'entre nous, nous allons comparaître devant celui qui va être à la fois notre juge et le témoin fidèle, devant Jésus-Christ. C'est la particularité avec Dieu, c'est qu'il est le juge, l'accusateur et le témoin, le défenseur. Et un jour, tous nos mensonges, un jour on va vivre ce que Jim Carrey, son personnage, a vécu, tout d'un coup, tous les mensonges vont tous sortir. C'est juste la vérité qui va venir, ça va mettre en lumière tous les mensonges qu'on a prononcés dans notre vie, tous les faux témoignages, toutes les fois on a commérés contre du monde, toutes les fois on a attaqué la réputation des gens autour de nous, tout ça va être mis en lumière parce qu'il y a un témoin, le témoin des anges, le témoin fidèle qui est là et qui enregistre live tout ce qui se passe en continu. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, c'est tout là, ça défile devant lui. Et ce qu'il nous est dit dans sa parole, c'est qu'au jour où on va comparaître, soit qu'il va témoigner contre nous, soit qu'il va témoigner en notre faveur. Et tout ça va se décider sur une seule chose. Sur une seule chose. Est-ce qu'on a accepté, est-ce qu'on a cru dans le témoignage qu'il est venu livrer sur la terre lorsqu'il s'est incarné? Le témoignage que Jésus-Christ va livrer me concernant, favorable ou non, va dépendre non pas de mes péchés parce que je suis pécheur, je suis un menteur, coupable, mais va dépendre de ma foi dans le témoignage qu'il a livré sur terre. Lorsqu'il est venu sur terre, il a témoigné de l'amour de Dieu. Jésus est venu avec des yeux lucides, il a vu l'être humain dans son péché et il a dit « Dieu vous aime ». Voici le témoignage que je suis venu rendre ici, au milieu de vous. Dieu vous aime et Dieu veut vous faire grâce. Dieu veut vous pardonner vos meurtres, vos convoitises, vos adultères, vos calomnies, vos mensonges, vos violences, vos fourberies, vos tromperies. Dieu veut vous pardonner tout cela à cause de sa grâce qu'on trouve en Jésus-Christ. Et à ceux qui vont avoir cru dans son témoignage, cru en cela, lorsqu'on va se retrouver devant Dieu, comparaître devant le juge, je ne sais pas comment ça va se passer, hein? Il va descendre, puis il va dire, « OK, attendez un instant, monsieur le juge. Je vais aussi être son avocat. Changer sa toge, il va venir à côté d'Yannick. Je rends témoignage. » C'est un crotté. Mais il a été gracié, par exemple. Il a été couvert par la grâce. Aujourd'hui, c'est un saint. Ouh, qui l'eût cru? À cause de la grâce en Jésus-Christ. On va passer un temps de louange ensemble. On va passer un temps de louange. Mais voici ce que je crois qu'on est appelé à devenir, nous, les amis. Dieu nous a donné sa parole, et puis à travers sa parole, on a découvert l'Évangile. Puis en découvrant l'Évangile, Dieu nous a montré nos cœurs, et nous a montré la réalité du cœur humain. Parce qu'on a connu la réalité de notre cœur, on est là, puis on avance dans la vie, on avance en regardant la société, puis on voit le péché partout. C'est vrai ou c'est faux? On est là, puis on écoute un bon film. Le film, écoute, il est super bien, mais quand même, je pense que l'être humain n'est pas capable de faire grand-chose de bon sans à un moment donné faire une niaiserie. Fait qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, on a des collègues de travail, ils sont super travaillants, ils sont super gentils, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et Dieu nous a donné cette espèce de lucidité où on regarde les jeux politiques, on lit les nouvelles, on suit les médias avec une lucidité qui fait qu'on voit le péché partout. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être simplement des témoins du péché. Parce qu'on a été témoins de la grâce de Dieu. N'est-ce pas? J'ai vu mon cœur, les amis. J'ai vu mon cœur, j'ai vu que ce cœur-là n'allait pas me conduire dans de bonnes voies. Au jour de ma conversion, j'ai dit simplement, moi, ça a été ça ma conversion. Seigneur, c'est toi qui run le show. Ce cœur-là est trop mauvais, je ne peux plus le suivre. Il est dangereux pour mon âme. C'est ça ma conversion à moi. Et j'ai été témoin à ce jour-là, j'ai été témoin de la grâce de Dieu. J'ai été témoin que Dieu aime les hommes, qu'il a aimé Yannick et qu'il lui a fait grâce. Il m'a couvert de sa grâce, de son amour, de son pardon. J'ai été témoin de la grâce de Dieu. Alors, ce qu'on est appelé à faire aujourd'hui, c'est quoi? On est appelé à être des témoins. Des témoins de l'Évangile. C'est ça qu'on est appelé à être. Oui, on voit le monde avec des yeux grands ouverts, on voit les jeux, on voit à quel point le péché est partout, le diable est là, puis tord toutes sortes d'affaires, puis c'est pathétique. Mais nos yeux ne s'arrêtent pas seulement là. Je vois aussi la grâce opérante de Dieu, où je vois en quoi ces gens-là ressemblent à Dieu, combien ils font des choses qui sont belles aussi, et je veux leur témoigner de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, « Vous serez mes témoins. » Bien sûr, vous allez être témoins du mal dans le monde. Mais ce n'est pas de ça que je veux que vous témoignez. « Ah, monde méchant, sale pécheur, maudit de Dieu. » Ce n'est pas de ça qu'on est appelé à parler tout le temps au travail, puis à jaser entre nous, puis à commérer. On est appelé à être des témoins de l'Évangile de Jésus-Christ. De l'opportunité pour des pécheurs menteurs perdus de devenir des saints. Pour l'opportunité d'apprendre à parler autrement, à parler de grâce et de bonté. Et donc, lorsque je parle de quelqu'un au travail, c'est la grâce qui est censée sortir. Bien sûr, je suis lucide. Je suis lucide, j'ai connu la grâce de Dieu. Alors, cette semaine, je vous invite à aller dans la prière. Aller dans la prière, puis à dire, « Seigneur, moi, je ne veux pas être à cette limite-là toujours de la loi de Dieu. Je veux vivre vraiment cette loi-là par la puissance du Saint-Esprit. Je veux devenir créatif par la puissance de l'Esprit. Je veux que l'Esprit me montre comment je peux non seulement ne pas porter de faux témoignages, mais comment je peux bénir avec ma bouche. Non seulement pas frapper mon ennemi, mais l'aimer, lui faire du bien. » Allez dans la prière cette semaine, dites, « Seigneur, montre-moi des gens contre qui j'ai tendance à commérer, contre qui j'ai tendance à faire du mal. Seigneur, montre-moi les gens que je n'aime pas, parce que je sais que dans ces cas-là, je suis vraiment en danger de porter de faux témoignages. » connaissez tous l'illustration de cet oreiller qui est éventré au vent, dont les plumes partent dans toutes les directions. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait du commérage. Le devoir que je vous donne cette semaine, c'est d'aller dans la prière puis dire, « Seigneur, montre-moi contre qui j'ai répandu des plumes. Je ne pourrai pas tous les rattraper, mais je vais commencer à semer de la grâce. Je vais chercher à construire la réputation des gens autour de moi, à reconnaître en eux les belles choses qu'il y a. Et lorsque je vais être confronté à des situations où je vois le mal, je vais te demander de m'aider à être un témoin de l'Évangile pour amener la grâce de Jésus-Christ dans cette situation-là et leur parler de ce que tu veux faire dans leur vie. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as la vérité. Mais Seigneur, encore à ce jour, si ce n'était du fait que par la foi, je me saisis de ta grâce, Seigneur. Et si ce n'était du fait, Seigneur, que j'ai vraiment confiance dans ton sacrifice sur la croix pour moi, je tremblerais d'ouvrir la bouche devant toi, Seigneur. Parce que je sais qu'encore trop souvent, Seigneur, je manque des opportunités de me taire et je manque des opportunités de parler pour défendre celui qu'on malmène, pour défendre les réputations qui sont attaquées, pour défendre les victimes du mensonge, pour ouvrir la bouche et annoncer la grâce, pour encourager, pour faire du bien, pour aimer, pour construire mon prochain au lieu de lui planter des couteaux dans le dos. Seigneur Jésus, tu as aimé des menteurs comme moi et tu as supporté de faux témoignages contre toi, Seigneur. Par amour pour nous, tu as été témoin de la vérité, de l'amour de Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Convainc-nous de péché là où nous avons péché, Seigneur. Que celui qui parle trop, qui est une langue sale, se repente, apprenne à se taire et à construire. Que les ennemis, Seigneur, qui viennent sur notre route, tu nous enseignes à les aimer, à les chérir, à les bénir, malgré le mal qu'ils nous font. Apprends-nous, Seigneur, à trouver plaisir à se taire pour ensuite apprendre à parler, pour communiquer des grâces. Ouvre nos bouches, Seigneur, afin que ce regard lucide que tu nous donnes sur le monde qui nous amène à voir le péché partout où il est, nous voyons toujours la grâce possible que tu veux amener, Seigneur. Qu'on devienne des intercesseurs et des messagers, des témoins de la grâce. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.